France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Mardi 3 avril. 3 avril, bonjour à tous, bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran. Bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, une page se tourne en Algérie. Après 20 ans au pouvoir, Abdelaziz Bouteflika a démissionné, lâché par l'armée et poussé vers la sortie par un mouvement populaire pacifique. Nous serons à Alger dès le début de ce journal après les autres titres, Agnès.
Le flop du grand débat à l'Assemblée, la retraite dorée de Carlos Ghosn, plus de 63 000 euros par mois, une femme noire et homosexuelle élue maire de Chicago et l'avion d'Égypte Terre qui s'est abîmée en mer il y a 3 ans n'aurait jamais dû décoller, selon un rapport remis à la justice française.
Les invités de France Inter ce matin. Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
7h50.
En Algérie, les moins de 20 ans, en effet, ne s'étaient jamais réveillés sans Bouteflika au pouvoir. Les manifestants veulent maintenant la chute de tout le système. N'est-ce pas le plus dur à faire? L'historien spécialiste de l'Algérie, Benjamin Stora, sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure, Alexandra. 8h20, les européennes, la campagne est lancée. Benoît Hamon, candidat du mouvement Génération, est l'invité de France Inter. Standard ouvert 01 45 24 7000.
France Inter.
En quelques heures hier soir, l'histoire s'est accélérée en Algérie. C'est d'abord le chef d'état-major des armées qui demande en début de soirée la mise à l'écart immédiate du président Bouteflika. Et à 20h49, c'est l'agence de presse APS qui annonce la démission d'Abdelaziz Bouteflika. La télévision diffuse alors la vidéo du vieux président Aga remettant sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel. 20 ans de règne balayé en un peu plus d'un mois de manifestations. Les Algériens ont fêté l'événement hier soir dans les rues d'Alger, notamment reportage de l'envoyé spécial de France Inter en Algérie, Mathilde Dehimi.
Ça sera une nouvelle démocratie d'une façon incroyable où le peuple vraiment, c'est lui qui décide.
L'ivresse, la transe dans les rues d'Alger. On chante, on danse, on se prête le drapeau le temps d'une photo.
C'est une victoire, c'est l'indépendance.
Il y a de la fierté, du soulagement.
20 ans d'étouffement, c'est bon.
Pas un mot pour le président malade.
Dégage.
Liesse craint de voir s'imposer sans changement une période de transition menée par Abdelkader Ben Salah.
On doit éviter le piège qui nous tente. Tout le système doit être éradiqué, y compris Abdelkader Ben Salah. On va continuer, même s'il faut le ramadan, on mange ou on mange pas, on doit être ici.
Certains remercient l'armée d'avoir fait pression pour la démission. Youssef appelle à rester vigilant.
Ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre le FLN au musée. Il faudrait que ce mouvement populaire puisse sortir des hommes capables de gérer toute cette transition. Aujourd'hui, il n'y a plus de Kabyle, il n'y a plus d'Arabes, il y a un seul et unique peuple. Nous sommes unis et on va tous les faire tomber.
Unis, les Algérois continueront de manifester vendredi, grisés par ce tournant de leur histoire. Alger, Gilles Gallinaro, Mathilde Dehimi, France Inter.
La joie des Algériens mêlée de crainte pour l'avenir. C'est le président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, Abdelkader Ben Salah, qui va donc assurer l'intérim durant 90 jours, le temps d'organiser de nouvelles élections. Et pour Pierre Vermeeren, professeur d'histoire contemporaine du Maghreb à la Sorbonne, il faudra aussi compter avec l'armée.
La situation était devenue totalement intenable pour Bouteflika et son clan. Et finalement, on a assisté à un baroud d'honneur ces deux derniers jours avec la nomination du gouvernement et puis l'annonce d'une démission hypothétique à la fin du mois. Mais c'était vraiment le champ du cygne. L'armée a accéléré ce départ qu'a obtenu la rue à coup de manifestations répétitives et tout à fait considérables par leur ampleur et impressionnantes par leur calme depuis un mois et demi. Maintenant, tout est à réinventer dans la Deuxième République qui s'annonce, si c'est le cas. Soit on reste dans les clous de la Constitution et donc on va avoir le président du Sénat qui a 90 jours pour organiser de nouvelles élections, soit on va vers une assemblée constituante. Et donc là, on sort des clous et du cadre constitutionnel. Il y a plusieurs options sur la table et apparemment, rien n'est tranché. Cette constitution, elle n'est pas contestée dans son esprit, elle est contestée dans la manière dont elle a été instrumentalisée. Et finalement, les Algériens, on voit bien qu'ils demandent de choisir vraiment leur président à travers un processus électoral et qu'on ne leur impose pas quelqu'un.
Propos recueillis par Frédéric Carbone, et la France a réagi hier soir se disant confiante dans la poursuite de la transition démocratique.
Il est 7h05, Agnès, retour en France avec un débat bien terne hier soir à l'Assemblée.
Et un hémicycle aux trois quarts vide pour parler fiscalité. Sagement, chaque parti a pris la parole pour défendre ses positions, mais en l'absence de vote, les débats ont tourné court, Élodie Forêt.
Si le grand débat peut se vanter de son 1,5 million de contributions, à l'Assemblée hier soir, il n'aura pas réuni plus de 70 députés. L'insoumis Hugo Bernalicis n'est pas étonné.
Parce que c'est censé être un grand débat, ça donne une image déplorable. Mais en réalité, quand vous savez que vous êtes là en plante verte et que rien ne va en ressortir, ben vous préférez faire des choses plus utiles, comme des auditions.
Des élus d'opposition sans enthousiasme ni illusion. Éric Woerth, orateur des LR.
Si débattre est une chose, bien débattre en est une autre. La majorité est-elle prête à écouter et à entendre l'opposition? Telle est la question. La réponse est en réalité non.
Les différents groupes politiques qui se seront malgré tout saisis de l'opportunité pour défendre leurs propositions. Baisse de l'impôt sur le revenu de 10%, disent les LR. Impôt à 14 tranches, répondent les insoumis. Des élus tous d'accord pour réclamer désormais une réponse rapide du gouvernement. Et Juan Balanant, député Modem, temporise.
C'est vrai que c'est un peu long, mais je crois que pour trouver les bonnes solutions pour les Français, il faut prendre le temps. Il y a un temps d'échange, il y a un temps de restitution et après il y a le temps des propositions. Et le temps des propositions, il va venir.
Et avant le temps des propositions, deux nouvelles séances de discussion sont prévues aujourd'hui à l'Assemblée, invitant les élus à la patience.
Et le grand débat se poursuit également aujourd'hui en Bretagne. Le chef de l'État est à Saint-Brieuc pour 2 heures de discussion avec les maires bretons. Et demain, Emmanuel Macron sera en Corse pour clore ce grand débat. Une visite d'ores et déjà boycottée par les élus nationalistes qui appellent à une journée île morte. C'est une question récurrente depuis son arrestation au Japon en novembre dernier. Dans quelles conditions l'ex-PDG de l'Alliance Renault-Nissan va-t-il solder son départ? La question sera discutée aujourd'hui en conseil d'administration chez Renault. Isabelle Raymond.
Carlos Ghosn a fait valoir ses droits à la retraite en envoyant sa lettre de démission le 24 janvier dernier. Il avait alors 64 ans et selon le cabinet de conseil aux actionnaires Proxinvest, c'est une étape obligatoire pour pouvoir ensuite réclamer sa retraite chapeau. 765 000 euros par an jusqu'à sa mort, d'après les estimations du cabinet spécialisé. Et légalement, Renault n'a pas d'autre choix que de verser cette somme annuelle à son ancien patron. Le constructeur automobile peut en revanche lui refuser une part de sa rémunération de 2018, de son salaire fixe d'1 million d'euros, au motif qu'il n'était pas physiquement dans l'entreprise après son arrestation au Japon le 19 novembre, de la part variable également, qui peut théoriquement grimper jusqu'à 1,2 million. Renault peut lui en retirer tout ou partie parce que les objectifs financiers n'ont pas été atteints l'an dernier ou à cause des soupçons de malversation qui pèsent désormais sur Carlos Ghosn et révélés par l'enquête interne diligentée au sein de l'entreprise.
Et ce matin sur Twitter, Carlos Ghosn se dit prêt à dire la vérité sur ce qu'il passe, sur ce qui se passe, et il annonce une conférence de presse pour jeudi prochain.
Le Brexit, il est 7h08 et on aura décidément tout vu.
Tout vu, tout entendu, même Theresa May tendre la main à son meilleur ennemi, le travailliste Jeremy Corbyn, pour essayer de trouver un compromis et éviter un Brexit sans accord, une main tendue d'ailleurs acceptée par Jeremy Corbyn. La Première Ministre demande dans le même temps aux Européens un nouveau report jusqu'au 22 mai, une demande accueillie plutôt fraîchement par Paris et Berlin. C'est une victoire historique, une femme à afro-américaine vient d'être élue maire de Chicago. Lori Lightfoot a 56 ans, novice en politique, cette ancienne procureure fédérale a fait campagne pour les démocrates en promettant de réduire les inégalités sociales et raciales dans cette ville gangrénée par la violence. Et c'est aussi la première femme ouvertement homosexuelle à devenir maire de la 3e plus grande ville des États-Unis. Émotion et espoir hier soir à Chicago lorsque Lori Lightfoot a pris la parole.
Beaucoup de petites filles et de petits garçons regardent ce soir. Ils nous regardent. Et ils assistent au début de quelque chose de, disons, un petit peu différent. Ils voient une ville qui va renaître. Une ville où peu importe la couleur de votre peau. Une ville où peu importe la personne que vous aimez, du moment que vous l'aimez de tout votre cœur. Dans le Chicago qu'on va bâtir ensemble, on célébrera nos différences, mais aussi le fait que nous sommes uniques. Et on fera en sorte que chacun ait l'opportunité de réussir. Chaque enfant présent ici ce soir doit savoir qu'un jour, il peut devenir maire de Chicago.
Propos recueillis par Grégory Philips. Retour à présent sur le crash de l'avion d'Égyptair en mai 2016. Le vol MS-804 entre Paris et Le Caire s'était abîmé en mer avec 66 personnes à bord. Les autorités égyptiennes avaient rapidement conclu à un acte terroriste, mais un rapport commandé par la justice française contredit cette thèse et évoque un défaut de maintenance. Selon les experts, Delphine Evenou, cet avion n'aurait jamais dû décoller.
Valve moteur, disjoncteur, alarme incendie des toilettes, des dizaines d'alertes sonores et visuelles ont été relevées des jours avant l'accident. Et pourtant, les équipages successifs d'Égyptair vont sciemment les ignorer, relèvent les experts aéronautiques, pour qui des vérifications poussées auraient dû être menées lors des 4 vols précédant le drame. L'appareil n'aurait même jamais dû rejoindre Paris. Sophie Cormary est indignée, elle a perdu son fils dans l'accident.
On continue à laisser voler une compagnie qui a présenté des défauts de maintenance. C'est insensé. Si le crash était survenu au-dessus d'une ville, sur le territoire français, on n'aurait pas attendu 2 ans pour commencer l'enquête. Or, l'enquête sur les boîtes noires ne va seulement commencer que maintenant.
Car les données des enregistreurs de vol n'ont été récupérées par les juges d'instruction français qu'en octobre dernier, après perquisition au sein du BEA, le bureau enquête et analyse soumis à la confidentialité envers l'Égypte. C'est aux autorités de régulation aérienne d'agir, tonne l'avocat des familles, maître Sébastien Buzy.
La sécurité devrait être la priorité de l'aviation civile française et européenne. On constate malheureusement que face à des démonstrations évidentes de maintenance erratique, voire une absence totale de maintenance, les autorités civiles ne font rien.
Les premières réponses sur les causes exactes du crash ne devraient pas être connues avant au moins un an.
Grosse colère des supporters lyonnais hier soir après l'élimination de l'OL en demi-finale de la Coupe de France. Lyon battu par Rennes 3-2. L'autre demi-finale a lieu ce soir entre le PSG et Nantes. Mercredi, c'est cinéma avec un film pour apprendre à décrypter les fake news en famille. Tito et les oiseaux, un film d'animation brésilien qui met en scène un petit garçon de 10 ans qui va lutter contre une étrange épidémie de peur et il va devoir pour cela affronter un présentateur télé sans scrupules, Corinne Pellissier.
Je suis Alaor Souza. Soyez les bienvenus sur votre chaîne d'infos préférée.
Avec sa mâchoire carrée, ses grosses dents et sa mèche peignée sur le côté, le méchant de l'histoire ressemble un peu à Donald Trump. Un businessman sans scrupules arrivé à la télévision après avoir bâti un empire dans la sécurité, bien décidé à continuer aujourd'hui à exploiter le filon de la peur qui transforme ici les habitants de Sao Paulo en statues de pierre.
Flash info, le président vient à l'instant de déclarer l'état d'urgence.
À la maison, à l'école, dans la rue, l'épidémie fait rage et donne lieu tous les jours, tout le temps à d'inquiétantes mises en garde. La maladie est contagieuse et se transmet par les idées.
S'il vous plaît, monsieur le proviseur, je veux pas devenir une pierre.
En jouant sur le thème de la peur et du chaos social, le réalisateur du film, Gustavo Stenberg, veut nous mettre en garde ici contre ces dangers imaginaires que le jeune Tito, 10 ans, devra affronter pour sauver le monde. Une histoire très en phase avec l'actualité, les futures générations qui devront, c'est sûr, batailler plus fort que les autres contre les crises économiques, les inégalités, le terrorisme, mais sauront s'en sortir en apprenant à lutter contre les fake news et tous ces murs physiques ou virtuels qui nous divisent. Tout un symbole au pays de Jair Bolsonaro, le film est en coup de poing et séduit par son esthétique très proche de l'expressionnisme allemand entre animation numérique et peinture à l'huile.
Bref, évitez absolument tout.
Tito et les oiseaux sortent ce matin sur les écrans.
Merci Agnès Soubiran.